Mon fils, s'écria Mylord. Imprudent, imprudent garçon! Que ne restait-il où il se trouvait en sûreté? Madame Henry ne prononça pas une parole, et je ne la regardai pas, je ne sais pourquoi. Eh bien, dit Mr. Henry, après avoir longuement repris sa respiration, où est-il? Je l'ai laissé sous la grande charmille, dis-je. Menez-moi auprès de lui, dit-il. Nous partîmes tous les deux, lui et moi, sans échanger un mot de plus. Et au milieu de l'allée, nous rencontrâmes le maître, qui arpentait le gravier en sifflant et battant l'air avec sa canne. Il y avait encore assez de lumière pour reconnaître un visage, mais non son expression. « Ah, Jacob !» dit le maître. « Voici donc Ésaü de retour. »« James, » dit Mr. Henry, « pour l'amour de Dieu, appelez-moi par mon nom. Je ne dirai pas que je suis bien aise de vous recevoir, mais je vous accueillerai le mieux possible dans la maison de nos pères. »« Ou dans ma maison, ou la vôtre ?» dit le maître. « Lequel des deux alliez-vous dire ? Mais c'est une vieille plaie qu'il ne faut pas raviver. Si vous n'avez pas voulu partager avec moi lorsque j'étais à Paris, j'espère que vous ne refuserez pas à votre frère aîné une place au coin du feu de Doris Dear. » Voilà qui est mal parlé, dit Mr. Henry, et vous sentez admirablement la force de votre situation. Ma foi, je le pense, dit l'autre avec un petit rire. Et ce fut là, bien qu'ils ne se fussent pas donné la main, toute la bienvenue des deux frères, car le maître se tourna ensuite vers moi et m'ordonna de prendre son bagage. Moi, de mon côté, je me tournai vers Mr. Henry pour avoir confirmation, et non sans quelque défi, peut-être. Aussi longtemps que le maître sera ici, Mr. McKellar, vous m'obligerez beaucoup en regardant ses désirs comme vous feriez des miens, dit Mr. Henry. Nous ne cessons de vous importuner. Voulez-vous avoir l'obligeance d'envoyer un des domestiques? Et il appuya sur le mot. Si cette phrase signifiait quelque chose, elle était à coup sûr un blâme bien mérité par l'étranger, et cependant sa diabolique imprudence était telle qu'il la prit au rebours. Et aurons-nous la vulgarité d'ajouter « baisser le nez » interrogea-t-il doucement en me regardant de côté. Quand bien même un royaume en eût dépendu, je n'aurais su prononcer une parole, même appeler un domestique était hors de mon pouvoir. Je préférais servir moi-même cet homme. Je me détournai en silence et descendis la grande charmille, le cœur plein de rage et de désespoir. Il faisait obscur sous les arbres, et je marchais devant moi sans plus savoir ce que j'étais venu faire là, jusqu'au moment où je faillis me rompre le cou sur les valises. Ce fut alors que je fis une curieuse remarque. Tout à l'heure, j'emportais deux sans presque m'en apercevoir. À présent, une me suffisait, et au-delà. Il me fallut donc faire deux voyages, ce qui me retint un bon moment éloigné de la salle. Lorsque j'y entrai, les effusions de l'accueil avaient pris fin depuis longtemps. On venait de se mettre à table, mais, inadvertance qui me piqua au vif, ma place avait été oubliée. Je venais de voir le retour du maître sous une face. J'allais apercevoir l'autre. Il fut le premier à remarquer mon arrivée, et eut un léger mouvement de recul analogue au mien. Puis il se leva avec vivacité. « Voilà que j'ai pris la place du bon McKellar !» s'écria-t-il. « John, mettez un autre couvert pour Mr. Bally. J'affirme qu'il n'est venu déranger personne, et votre table est assez grande pour nous tous. » J'en crus à peine mes oreilles et mes sens lorsqu'il me saisit aux épaules, et, tout riant, m'assit à ma place ordinaire, tant sa voix était affectueuse et gaie. Et tandis que John mettait le nouveau couvert, il y insista encore, pour lui, il alla s'accouder au fauteuil de son père, en considérant le vieillard qui se détourna pour lever les yeux vers son fils, avec une si douce tendresse mutuelle que je faillis, de stupéfaction, me prendre la tête à deux mains. Et tout fut à l'avenant. Ses lèvres n'eurent pas un mot rude, ni le moindre ricanement. Renonçant même à son roide accent anglais, il parlait la chère langue écossaise, qui donne plus de valeur aux paroles tendres. Et bien qu'il conservât une gracieuse élégance, fort étrangère à nos façons de Doris Dear, ses airs de cour se faisaient néanmoins familiers et nous flatter loin de nous humilier. Il ne s'en départit point de tout le repas, buvant à ma santé avec un égard sensible, se tournant pour adresser à John un mot aimable, caressant la main de son père, contant avec gaieté des bribes de ses aventures, rappelant avec bonheur les souvenirs du passé. Tout ce qui émanait de lui était si plein de grâce et d'accord avec sa distinction personnelle que je ne m'étonnais pas de voir Mylord et Madame Henry avec des visages rayonnants et derrière eux John faire son service avec des yeux pleins de larmes. Sitôt le souper terminé, Madame Henry se leva pour se retirer. « Tiens, ce n'était pas votre habitude, Alison, » dit le maître. « Ce l'est à présent, » répondit-elle, ce qui était notoirement faux. « Et je vous donne le bonsoir, James, et je salue votre retour d'entre les morts, » acheva-t-elle après une hésitation et d'une voix défaillante. Le pauvre Mr. Henry, qui avait fait durant le repas une assez piètre figure, s'assombrit encore. Il aima de voir sa femme se retirer, malgré le déplaisir de songer au motif qui la poussait, et l'instant d'après, il fut confondu par la chaleur de son discours. De mon côté, je sentis que j'étais de trop, et j'allais suivre l'exemple de Madame Henry, mais le maître s'en aperçut. « Ceci, Mr. McKellar, dit-il, n'est guère aimable. Je ne vous laisse pas sortir. Vous faites du fils prodigue un étranger, et cela, laissez-moi vous le rappeler, sous le toit de ses pères. Allons, rasseyez-vous, et buvez à la santé de Mr. Bally. » « Certes oui, Mr. McKellar, dit Mylord. Nous ne ferons un étranger pas plus de lui que de vous. Je disais justement à mon fils, ajouta-t-il, en soulignant le mot avec sa complaisance ordinaire, combien nous apprécions tous vos services amicaux. Je me rassis donc et demeurai en silence jusqu'à mon heure habituelle, et je me serais peut-être laissé abuser sur le caractère de cet homme, n'eût été un incident où sa perfidie apparut en plein. » Voici le fait, et le lecteur en jugera par lui-même, d'après ce qu'il sait de la rencontre des deux frères. Mr. Henry était assis, un peu morne, en dépit de tous ses efforts pour garder les apparences vis-à-vis de Mylord. Soudain, le maître se lève, fait le tour de la table, et va frapper sur l'épaule de son frère. « Allons, allons, Harry, mon garçon, » dit-il, avec le fort accent qu'ils devaient avoir entre eux dans leur enfance. « Il ne faut pas vous laisser abattre par l'arrivée de votre frère. Tout est à vous, c'est certain, et je ne vous chicanerai pas sur grand-chose. Vous ne devez pas non plus me chicaner ma place au foyer paternel. »« C'est trop juste, Henry, » dit mon vieux lord, en fronçant un peu le sourcil, chose rare chez lui. « Vous avez été le frère aîné de la parabole dans le bon sens, ne le soyez pas dans l'autre. »« Je me laisse facilement induire en erreur, » dit Mr. Henry. « Qui vous induit en erreur ?» s'écria Mylord, un peu rudement me sembla-t-il, pour un homme si doux. « Vous avez mérité ma reconnaissance et celle de votre frère, mille et mille fois. Vous pouvez compter sur sa durée, et c'est assez. »« Sans nul doute, Harry, vous pouvez y compter, » dit le maître. Et je crus voir une lueur féroce dans le regard que lui lança Mr. Henry. Concernant les malheureux épisodes qui vont suivre, il y a quatre questions que je me suis souvent posées à cette époque et que je me pose toujours. L'homme était-il mu par un ressentiment particulier envers Mr. Henry, ou parce qu'il croyait être son intérêt, ou par ce simple goût de la cruauté que manifestent les chats et que les théologiens attribuent au diable, ou parce qu'il eût appelé de l'amour? Je m'en tiens le plus fréquemment aux trois premières hypothèses, mais il est possible que sa conduite participât de toutes quatre. En effet, l'animosité contre Mr. Henry expliquerait la façon haineuse dont il le traitait lorsqu'ils étaient seuls. Ses intérêts expliqueraient son attitude très différente devant Mylord, ses intérêts encore, plus une pointe de galanterie, son désir de bonne entente avec Madame Henry, et le plaisir du mal pour lui-même, les peines qu'il prenait sans cesse à entremêler et opposer ces diverses lignes de conduite. En partie parce que j'étais si ouvertement l'ami de mon maître, en partie parce que, dans mes épîtres adressées à Paris, j'avais souvent pris la liberté de lui faire des remontrances, Je fus englobé dans son diabolique amusement. Lorsque j'étais seul avec lui, il me harcelait de sarcasmes. Devant les autres, il était tout à fait aimable et familier. Ce contraste était d'abord pénible en soi, puis il m'induisait sans cesse en erreur, mais surtout il comportait un élément d'injure inexprimable. Qu'il voulût ainsi me tenir en dehors de sa dissimulation, comme si mon témoignage même était trop vil pour compter, me blessait jusqu'à l'âme. Mais ce que j'en pensais n'a pas d'importance. Je le note simplement pour mémoire, et surtout parce que cette persécution me fit deviner plus tôt le martyre de Mr. Henry. Ce fut sur lui que tomba le plus lourd. Comment répondre en public aux avances de celui qui ne perdait jamais une occasion de le mortifier en particulier? Comment sourire à qui le trompait et l'insultait? Il était condamné à paraître mal gracieux. Il était condamné au silence. S'il eût été moins fier, s'il eût parlé, qui aurait cru la vérité? La calomnie en action avait donc réussi. Mylord et Madame Henry étaient les témoins journaliers de ce qui se passait. Ils auraient pu affirmer sous serment que le maître était un modèle de douceur et de longanimité, et Mr. Henry la jalousie et l'ingratitude incarnée. Et ses défauts, si vilains en quiconque, semblaient 10 fois plus laids chez Mr. Henry, car personne ne pouvait oublier que la vie du maître était en danger, et qu'il avait déjà perdu sa fiancée, son titre et sa fortune. « Henry, sortez-vous à cheval avec moi ?» demanda un jour le maître. Et Mr. Henry, qui avait été mortifié par l'homme toute la matinée, de répondre sèchement « Non. »« Je souhaiterais parfois vous voir plus aimable, Henry, » dit l'autre d'un air peiné. Je cite cet exemple, mais des scènes analogues eurent lieu sans cesse. Rien d'étonnant si Mr. Henry était blâmé. Rien d'étonnant si je me tourmentais, presque à en avoir la jaunisse. Et le simple souvenir de cette période me fait bouillir le sang dans les veines. À coup sûr, jamais en ce monde il n'y eut plus diabolique machination, si perfide, si simple et impossible à combattre. Et pourtant, je crois, et croirai encore et toujours, que Madame Henry était à même de lire entre les lignes. Elle aurait dû mieux connaître le caractère de son mari après tant d'années de mariage. Elle aurait dû posséder ou capter sa confiance. Et mon vieux lord aussi, ce gentleman si avisé, où était sa faculté d'observation? Mais il est vrai, la ruse était pratiquée de main de maître et aurait déçu un ange. D'autre part, en ce qui concerne Madame Henry, j'ai remarqué que deux individus ne sont jamais plus étrangers l'un à l'autre qu'en étant à la fois mariés et brouillés. On les croirait alors sourds ou parlant une autre langue. Et en troisième lieu, dans le cas de nos deux spectateurs, ils étaient aveuglés par une prédilection invétérée. Et quatrièmement, le risque supposé du maître, supposé, dis-je, on saura bientôt pourquoi, rendait toute critique des moins généreuses, et en leur inspirant une continuelle et tendre sollicitude au sujet de sa vie, les aveuglait encore plus sur ses défauts. Ce fut à cette époque que je commençais à mieux comprendre le prestige des bonnes manières et à déplorer profondément la vulgarité des miennes. Mr. Henry avait l'essentiel du gentleman. Une fois ému, ou si la circonstance l'exigeait, il jouait son rôle avec esprit et dignité, mais dans le commerce de tous les jours, il serait vain de le nier, il manquait d'élégance. Le maître, au contraire, ne faisait pas un geste qui ne fût réfléchi et voulu. Et par conséquent, lorsque l'un se montrait aimable et l'autre mal gracieux, le moindre trait de leur personne venait confirmer leur attitude. Il y avait pis, car plus Mr. Henry s'empêtrait dans les pièges de son frère, plus gauche il devenait, et plus le maître jouissait de son odieux plaisir, plus il apparaissait aimable et souriant. De sorte que la trame, en s'allongeant et progressant, se développait et se renforçait d'elle-même. Entre autres astuces, cet homme mettait à profit le danger, comme je l'ai dit, qu'il était censé courir. Il en parlait à ceux qu'il aimait sous forme d'agréable badinage, ce qui le rendait plus intéressant. Il en faisait contre Mr. Henry une arme offensive cruelle. Je le vois encore poser son doigt sur le losange incolore de la verrière, un jour que nous étions seuls à trois dans la salle. « C'est par là qu'a passé votre bienheureuse Guinée, Jacob, » dit-il. Et, comme Mr. Henry le regardait sombrement, « Oh, ajouta-t-il, ne prenez donc pas inutilement cet air féroce, ma bonne mouche. Vous serez débarrassé de votre araignée dès qu'il vous plaira. Jusques à quand, ô Seigneur, quand serez-vous mûr pour me dénoncer, frère scrupuleux? C'est une de mes distractions dans ce trou lugubre. J'ai toujours aimé les expériences. » De nouveau, Mr. Henry se contenta de fixer sur lui un regard sombre, et il changea de couleur. Mais le maître, avec un éclat de rire, lui frappa sur l'épaule en l'appelant balourd. Sur quoi mon maître fit un bond en arrière avec un geste qui me sembla fort menaçant, et je suppose que l'autre pensa de même, car il parut un rien décontenancé, et jamais plus à ma connaissance, il ne porta la main sur Mr. Henry. Mais bien qu'il eût sans cesse à la bouche son danger, sous une forme ou l'autre, je trouvai sa conduite singulièrement imprudente, et commençais à me dire que le gouvernement, lequel avait mis sa tête à prix, avait le sommeil bien dur. Je ne nierai pas quelle tentation m'effleura de le dénoncer, mais deux considérations me retinrent. D'abord, s'il finissait honorablement sur l'échafaud, le personnage serait canonisé pour de bon dans les esprits de son père et de sa belle-sœur. D'autre part, si j'étais le moins du monde mêlé à l'affaire, Mr. Henry n'échapperait pas aux soupçons. Et cependant, notre ennemi allait et venait au dehors plus que je ne l'aurais cru possible. La nouvelle de son retour s'était répandue sur toute la côte, et jamais il ne fut inquiété. Parmi toutes les personnes au courant de sa présence, pas une qui fut cupide, comme je songeais avec tristesse, ni attachée au gouvernement. Et l'homme courait le pays à cheval, beaucoup mieux reçu, en dépit d'un reste de l'impopularité passée, que Mr. Henry, et au regard des contrebandiers, bien plus en sûreté que moi. Il n'était pas néanmoins sans avoir sa tablature, et comme il en résulta les plus graves conséquences, je dois relater l'affaire. Le lecteur n'a sans doute pas oublié Jesse Brown. Sa façon de vivre la mettait en contact fréquent avec les contrebandiers. Le capitaine Crail lui-même était de ses intimes, et elle fut des premières à savoir la présence de Mr. Bailey au château. À mon idée, elle n'avait cure depuis longtemps de la présence du maître, mais elle avait pris l'habitude de s'associer perpétuellement au nom du maître. C'était le fond de toute sa comédie. En conséquence, lorsqu'il était revenu, elle crut de son devoir à elle de hanter le voisinage de Derisdeer. Le maître ne pouvait sortir qu'il ne trouvât à l'attendre cette femme de scandale, presque toujours ivre. Elle hélait à grands cris son bon petit gars, lui débitait des vers de mirliton et même, paraît-il, fit semblant de pleurer sur son épaule. Je l'avoue, je me frottais les mains de cette persécution, mais le maître, si rude à autrui, était pour soi-même le moins patient des hommes. Il se passa d'étranges scènes en leur particulier. Certains disent qu'il leva sa canne sur elle et que Jesse recourut à ses armes de jadis, les pierres. Il est certain que pour finir, il demanda au capitaine Crail d'attirer la femme dans un guet-apens et que le capitaine repoussa la proposition avec une chaleur inusitée. À la fin du compte, Jesse l'emporta. On réunit de l'argent, il y eut une entrevue, au cours de laquelle mon fier gentilhomme dut consentir à recevoir des baisers et des larmes, et la femme fut installée dans un cabaret à elle, situé quelque part sur le Solvay, mais où, je l'ai oublié, et d'après le peu que j'en sais, des plus mal fréquentés. Mais nous anticipons. Il y avait quelque temps que Jesse s'attachait à ses pas, lorsque le maître vint un jour me trouver dans le bureau du régisseur, et me dit avec plus de politesse qu'à l'ordinaire, « Mackellar, il y a une maudite folle de traînée qui rôde aux alentours. Il ne m'est guère possible de m'en occuper moi-même, aussi j'ai recours à vous. Ayez l'obligeance de voir à ce que nos gens aient l'ordre strict de chasser cette traînée. » « Monsieur, dis-je en tremblant un peu, vous pouvez faire vous-même vos sales commissions. » Sans dire un mot, il quitta la chambre. Peu après arriva Mr. Henry. « Voici du nouveau, s'écria-t-il. Il paraît que tout ne suffit pas encore et que vous voulez ajouter à mes mots. Il paraît que vous avez offensé Mr. Bally. » « Avec votre permission, Mr. Henry, répliquai-je, c'est lui qui m'a offensé, et à mon avis, grossièrement. Mais je n'ai peut-être pas assez considéré votre situation en parlant, et si vous le croyez aussi, lorsque vous saurez tout, mon cher maître, vous n'avez qu'un mot à dire. Pour vous, j'obéirai sur n'importe quoi, même jusqu'au péché, Dieu me pardonne. » Et je lui racontai ce qui venait de se passer. Mr. Henry eut un sourire. Je n'ai jamais vu plus affreux sourire. « Vous avez parfaitement agi, dit-il. Il boira jusqu'à la lisse à Jesse Brown. » Puis, apercevant le maître au dehors, il ouvrit la fenêtre et lui cria, en l'appelant Mr. Bally, de monter un instant. « James, dit-il, quand notre persécuteur fut entré et qu'il eut refermé la porte derrière lui, en me regardant avec un sourire, comme s'il se figurait que j'allais être tensé, « vous êtes venu vous plaindre à moi de Mr. McKellar. J'ai pris mes renseignements. Je n'ai pas besoin de vous dire que je le croirai toujours de préférence à vous, car nous sommes seuls et je vais user un peu de votre liberté. Mr. McKellar est un gentleman que j'estime, et vous devez tâcher, aussi longtemps que vous serez sous ce toit, de ne plus entrer en collision avec une personne que je soutiendrai quoi qu'il doive en coûter à moi ou au mien. Quant à la commission que vous lui proposiez, vous pouvez aller vous-même vous dépêtrer des conséquences de votre méchanceté, et nul de mes serviteurs ne sera employé en pareil cas. « Les serviteurs de mon père, je crois, » dit le maître. « Allez donc lui raconter cette histoire, » dit Mr. Henry. Le maître devint très pâle. Il me désigna du doigt. « Je veux que vous renvoyiez cet homme, » dit-il. « Je ne le renverrai pas, » dit Mr. Henry. « Vous me le paierez joliment cher, » dit le maître. « J'ai payé si cher déjà pour un mauvais frère, » dit Mr. Henry, « que j'ai fait banqueroute, même de crainte. Il ne reste plus d'endroit où vous puissiez me frapper. »« C'est ce que nous verrons, » dit le maître. Et il se retira lentement. « Que va-t-il faire, McKellar ?» demanda Mr. Henry. « Laissez-moi partir, » dis-je. « Mon cher maître, laissez-moi partir. » « Je vais vous attirer de nouveaux ennuis. « Voudriez-vous me laisser tout seul ?» demanda-t-il. Notre incertitude sur le nouveau genre d'attaque ne fut pas longue. Jusqu'à cette heure, le maître avait joué très serré avec Madame Henry. Il évitait délibérément de rester seul avec elle, ce que je pris d'abord pour un respect des convenances, mais ce que j'attribue aujourd'hui à une habileté plus insidieuse. Il ne la voyait pour ainsi dire qu'au moment des repas et se comportait alors en frère affectionné. Jusqu'à cette heure, on peut dire qu'il ne s'était pas directement interposé entre Mr. Henry et sa femme. Il s'était contenté de soustraire à l'un les bonnes grâces de l'autre. Or, tout ceci allait changer, mais fût-ce par vengeance réelle ou parce qu'il était là de Derisdeer et cherchait une distraction, le diable seul peut le dire. Dès 7 heures, en tout cas, il entreprit le siège de Madame Henry. Les opérations furent menées si habilement qu'elle-même s'en aperçut à peine et que son mari dut y assister en silence. La première tranchée fut ouverte, semble-t-il, par accident. La conversation tomba, une fois de plus, sur les exilés de France, puis elle dévia sur ce qu'ils chantaient. « Voici une de leurs chansons, dit le maître, si cela vous intéresse, qui m'a toujours paru très émouvante. Les vers en sont mauvais, et cependant, peut-être à cause de ma situation, ils me sont toujours allés au cœur. Celle qui chante, je dois vous le dire, est supposée être la fiancée d'un exilé, et les paroles expriment moins ses vraies pensées à elle que ce que lui espère d'elle en cette ère lointaine. » Et ici le maître soupira. « Je vous assure que c'est un spectacle poignant de voir une vingtaine de grossiers Irlandais, tous simples soldats, entonner cette chanson, et l'on peut se rendre compte, à voir couler leurs larmes, à quel point elle les émeut. « Elle commence ainsi, père, » dit-il en prenant fort habilement Mylord comme auditeur, « et si je ne puis aller jusqu'au bout, Vous songerez que c'est un cas ordinaire chez nous autres exilés. » Alors il chanta cet air que j'avais entendu siffler par le colonel, mais cette fois avec les paroles, frustes en effet, mais exprimant avec d'autant plus de force les désirs d'une pauvre fille envers son amant exilé. Je m'en rappelle ces quelques vers, si l'on peut dire. « Oh, je veux teindre en rouge mon jupon, avec mon cher garçon j'irai mendier mon pain, dussent toutes mes amies souhaiter me voir morte, pour Willy dans les roseaux. Oh !» Il la chanta bien, mais la mima encore mieux. J'ai entendu des acteurs fameux, alors qu'il n'y avait pas un œil sec dans tout le théâtre d'Édimbourg, spectacle bien étonnant. Mais pas plus étonnant que de voir le maître jouer de cette petite ballade, et de ceux qui l'écoutaient comme d'un instrument. Parfois, on le croyait prêt à défaillir, puis il domptait sa faiblesse, tant que les paroles et la musique semblaient sortir de son cœur et de son passé propre, et viser directement Madame Henry. Et son art alla plus loin, car le tout fut si subtilement nuancé qu'il était impossible de le soupçonner de la moindre intention, et loin de faire étalage de son trouble, on eût juré qu'il s'efforçait de rester calme. Quand il eut fini, nous demeurâmes tous silencieux un moment. Il avait choisi l'heure du crépuscule, et personne ne distinguait les traits de son voisin, mais il sembla que nous avions cessé de respirer. Seul Mylord s'éclaircit la gorge. Le premier à faire un mouvement fut le chanteur, qui soudain se leva sans bruit et se mit à marcher lentement et de long en large au bas-bout de la salle, où Madame Henry se tenait d'habitude. Nous devions supposer qu'il luttait avec un reste d'émotion, mais il revint bientôt s'asseoir et s'embarqua dans un examen du caractère irlandais, toujours si mal interprété et qu'il défendit, de sa voix normale. Et par suite, les lumières n'étaient pas encore apportées, que nous causions tous comme à l'ordinaire. Même alors, toutefois, je crus remarquer une certaine pâleur sur le visage de Madame Henry. En outre, elle se retira presque tout de suite. Un nouvel indice fut l'amitié que cet insidieux démon sut inspirer à l'innocente Miss Catherine. Ils étaient toujours ensemble, la main dans la main, ou bien elle grimpait sur son genou. On eût dit une paire d'enfants. Comme toutes ces actions diaboliques, celle-ci atteignit plusieurs buts. Ce fut pour Mr. Henry le dernier coup de voir sa propre fille détournée de lui. Il en devint dur à l'égard de la pauvre innocente, ce qui le mit encore un cran plus bas dans l'estime de sa femme. Et pour conclure, ce fut un trait d'union entre My Lady et le maître. Sous cette influence, leur réserve ancienne se fondit chaque jour davantage. Bientôt, ce furent des promenades sous la grande charmille, des causeries dans le belvédère et je ne sais quelle tendre familiarité. Je suis sûr que Madame Henry était comme beaucoup d'honnêtes femmes. Elle avait la conscience en repos, mais peut-être s'aveuglait-elle un peu. Car même à un observateur aussi obtus que moi, son affection apparaissait plus tendre qu'il ne convient à une sœur. Sa voix s'enrichit de notes plus mélodieuses, son regard s'illumina de douceur, elle devint plus aimable avec nous tous, même avec Mr. Henry, même avec moi. Il émanait d'elle une sorte de bonheur discret et mélancolique. Quel tourment pour Mr. Henry d'assister à ces changements. Et toutefois, notre délivrance finale en fut le résultat, comme je vais bientôt l'exposer. Le but du maître en restant au château était tout bassement, quelque dorure qu'on y mît, de soutirer de l'argent. Il avait projeté de faire fortune aux Indes françaises, comme l'écrivit le chevalier, et c'était la somme nécessaire qu'il était venu chercher. Pour le reste de la famille, cela signifiait la ruine, mais Mylord, dans son incroyable partialité, nous poussait continuellement à céder. La famille était à présent si réduite, elle comprenait juste le père et les deux frères, qu'il devenait possible d'entamer le patrimoine et d'aliéner une pièce de terre. À quoi Mr. Henry, d'abord par des allusions, puis par une pression directe, fut amené à consentir. Il n'y aurait jamais consenti, j'en suis persuadé, sans le fait du malheur sous lequel il succombait. N'eût été son désir passionné de voir son frère parti, Il n'aurait jamais enfreint de la sorte ses propres sentiments et les traditions de sa race. Même ainsi, il leur vendit cher son acceptation. Il parla pour une fois sans détour et fit voir la honteuse affaire sous son véritable jour. « Vous remarquerez, dit-il, que c'est une injustice envers mon fils, si j'en ai jamais un. » « Mais il est peu probable que vous en ayez un, » dit Mylord. « Dieu le sait, » dit Mr. Henry. « En considérant la position cruellement fausse dans laquelle je me trouve vis-à-vis de mon frère, et aussi que vous, Mylord, êtes mon père, et avez le droit de me condamner, je signerai ce papier. Mais je dirai d'abord une chose, on m'y contraint d'une manière peu généreuse. Et ensuite, Mylord, quand vous serez tenté de comparer vos deux fils, je vous prie de rappeler ce que j'ai fait. » Et ce que lui a fait. Les actes sont la vraie pierre de touche. Mylord était l'homme le plus mal à l'aise que j'ai jamais vu. Sa vieille face trouva moyen de s'empourprer. Le moment, je crois, n'est pas très bien choisi pour vous plaindre, Henry, dit-il. Cela diminue le mérite de votre générosité. Ne vous y trompez pas, Mylord, dit Mr. Henry. Ce n'est point par générosité que je commets cette injustice. C'est pour vous obéir. » Devant des étrangers, commença Mylord, encore plus mal inspiré. « Il n'y a ici que MacKellar, dit Mr. Henry, et il est mon ami. D'ailleurs, Mylord, comme MacKellar est le témoin fréquent de vos blâmes, il ne serait pas juste que je l'empêche d'ouïr une chose aussi rare que ma défense. » Pour un peu, Mylord serait revenu sur sa décision, mais le maître veillait. « Ah, Henry, Henry, dit-il, c'est encore vous qui êtes le meilleur de nous tous. Rude mais franc. Ah, mon ami, je voudrais avoir votre bonté. » À cette nouvelle preuve de générosité de son favori, l'hésitation de Mylord cessa, et l'acte fut signé. Dans le plus bref délai possible, la terre Dr. Hall fut vendue, bien au-dessous de sa valeur, et l'argent remis à notre sensu, qu'il expédia en France par ses moyens privés. Ou du moins, il nous le fit croire, et j'ai soupçonné depuis qu'il n'alla pas aussi loin. Les manigances de l'homme avaient donc abouti heureusement, et ses poches, une fois de plus, regorgeaient de notre or. Mais nous attendions toujours la récompense de nos sacrifices, et le visiteur s'attardait à de risdir. Était-ce par malignité, ou parce que le temps n'était pas encore venu pour lui de gagner les Indes, ou parce qu'il avait un espoir de réussite auprès de Madame Henry, ou bien par ordre du gouvernement, qui peut le dire? Mais bref, il s'attarda, et durant des semaines. J'ai dit, vous l'avez remarqué, par ordre du gouvernement. Car ce fut vers cette époque que le déshonorant secret de cet homme transpira au dehors. Ce qui me donna l'éveil fut le propos d'un tenancier, commentant le séjour du maître et surtout ma sécurité, car ce tenancier était de sympathie jacobite et avait perdu un fils à Culloden, ce qui aiguisait sa critique. « Il y a un détail que je ne puis m'empêcher de trouver bizarre, me dit-il, c'est le fait de son arrivée à Cockermouth. »« À Cockermouth, dis-je, me rappelant alors ma surprise de voir l'homme débarquer en un tel point de vue, après un si long voyage. Eh bien oui, dit le tenancier, c'est là qu'il fut recueilli par le capitaine Crail. Vous vous figuriez qu'il était venu de France par mer? Nous aussi. Je retournai dans ma tête cette nouvelle que j'allais communiquer à Mr. Henry. Voici un détail curieux, dis-je, et je lui contai la chose. Qu'importe la façon dont il est venu, MacKellar, aussi longtemps qu'il est ici, répliqua tristement Mr. Henry. « Non, non, dis-je, pensez-y mieux. Cela ne sent-il pas la connivence gouvernementale? Vous savez combien de fois déjà la sécurité de l'homme nous a étonnés. » « Attendez, dit Mr. Henry, laissez-moi réfléchir. » Et peu à peu, je vis naître sur son visage ce sourire féroce qui ressemblait un peu à celui du maître. « Donnez-moi du papier, dit-il. » Et sans un mot de plus, il s'assit pour écrire à un gentleman de ses connaissances. Le nom est inutile, mais c'était quelqu'un de haut placé. Je fis porter cette lettre par le seul messager auquel je pusse me fier en l'occurrence, McConaughey. Le vieil homme dut galoper, car il était revenu avec la réponse avant même que mon impatience osât commencer à espérer. En la lisant, Mr. Henry eut le même sourire féroce. « Voici le meilleur tour que vous nous ayez fait encore, McKellar, » dit-il. « Avec ce document, je vais lui donner une fière secousse. Observez-nous au dîner. » Au dîner, donc, Mr. Henry proposa une visite où le maître serait fort en vue, et comme il s'y attendait, Mylord objecta le danger. « Oh !» dit Mr. Henry d'un air détaché, « ce n'est plus la peine de m'en faire un secret, je suis dans la confidence, tout comme vous. »« La confidence ?» dit Mylord, « un secret ? Que voulez-vous dire, Henry ? Je vous donne ma parole que je n'ai pas de secret dont vous soyez exclu. » Le maître avait changé de contenance, et je vis qu'il était touché au défaut de la cuirasse. « Comment ? » lui dit Mr. Henry, d'un air fort étonné. « Je sais que vous servez vos maîtres avec fidélité, mais je me figurais que vous aviez eu pitié de notre père et l'aviez tranquillisé. »« De quoi parlez-vous ? Je ne veux pas que l'on discute mes affaires en public. »« J'ordonne que cela cesse !» s'écria le maître avec une folle impétuosité, plus digne d'un enfant que d'un homme. « On n'attendait pas de vous semblable discrétion, je vous affirme, » continua Mr. Henry. « Car voici ce que m'écrit mon correspondant. » Il déploya le papier et lut. « Il est en effet de l'intérêt du gouvernement, comme du gentleman qu'il vaut mieux continuer d'appeler Mr. Bailey, que cet accord demeure secret. Mais on n'eut jamais l'intention de laisser aujourd'hui encore sa famille dans les transes que vous dépeignez si chaudement, et je suis heureux de venir le premier apaiser ses craintes. » « Mr. Bailey est aussi bien que vous en sécurité dans la Grande-Bretagne. »« Est-il possible ? » s'écria Mylord, regardant son fils avec beaucoup d'étonnement et plus encore de soupçon. « Mon cher père, » dit le maître, qui s'était déjà ressaisi, « je suis enchanté de pouvoir enfin parler. Mes instructions à moi étaient tout autres et m'obligeaient de garder le secret à tout le monde sans vous excepter, et même à vous expressément désigné. » comme je puis vous le faire voir par écrit si je n'ai pas supprimé la lettre. Ils ont dû changer d'avis très promptement, car la chose est encore toute récente. Ou plutôt, Henry, votre correspondant aura mal interprété ce point, comme il a mal interprété les autres. À vous dire vrai, monsieur, continua-t-il avec toujours plus d'assurance, j'avais supposé que cette faveur inattendue, accordée à un rebelle, était un effet de votre intervention, et l'ordre de garder le secret même de ma famille... le résultat d'un désir à vous de cacher votre bonté. C'est pourquoi j'obéissais aussi strictement aux ordres. Il nous reste maintenant à deviner par quelle entremise cette faveur s'est posée sur un coupable aussi notoire que moi, car je ne crois pas que votre fils ait besoin de se justifier de cette imputation que renferme la lettre d'Henry. On n'a pas encore ouï dire qu'un Dury fut jamais un traître ou un espion, ajouta-t-il avec superbe. Il semblait donc sortir indemne de ce mauvais pas, mais il comptait sans une bévue qu'il avait commise, et sans la pénétration de Mr. Henry, qui allait manifester quelque chose de l'esprit de son frère. « Vous dites que l'affaire est toute récente, » dit Mr. Henry. « Elle est récente, » dit le maître, d'un ton très assuré, mais non sans une légère hésitation. « Si récente que cela ?» demanda Mr. Henry d'un air intrigué et déployant de nouveau sa lettre. Elle ne contenait pas un mot touchant la date, mais comment le maître l'aurait-il su ? « En tout cas, la faveur est venue bien tard pour moi, » dit-il avec un rire. Au son de ce rire, faux comme une cloche fêlée, Mylord le regarda encore une fois par-dessus la table, et je vis ses vieilles lèvres se pincer. « Non, » dit Mr. Henry, toujours examinant sa lettre, « mais je me rappelle votre expression, vous disiez que c'était tout récent. » Et alors nous eûmes la preuve de notre victoire, et le plus fort exemple de l'incroyable faiblesse de Mylord, car ce fut lui qui intervint pour épargner la honte à son favori. « Je crois, Henry, » dit-il avec une sorte d'empressement piteux, « je crois superflu de disputer davantage. » Nous nous réjouissons tous pour finir que votre frère soit sauf. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Et en sujet reconnaissant, nous ne pouvons mieux faire que de boire à la santé du roi et à sa clémence. Le maître était donc hors d'affaire. Mais il avait été réduit à se défendre. Il s'en était tiré sans gloire et le prestige de son danger personnel lui était publiquement retiré. Mylord, dans son fort intérieur, connaissait désormais son favori pour un espion du gouvernement, et Madame Henry, quel que fût son avis, se montra visiblement plus froide envers le héros de roman déchu. C'est ainsi que le meilleur édifice de duplicité possède quelques points faibles, et il suffit de l'atteindre pour que tout croule. Et si par cet heureux coup nous n'avions pas ébranlé l'idole, qui peut dire ce qui en aurait résulté pour nous lors du dénouement? Toutefois, à l'époque, c'était comme si nous n'avions rien fait. Au bout d'un jour ou deux, il avait effacé les traces de sa défaite, et selon toute apparence, restait aussi fort que jamais. Quant à Mylord de Rhysdyre, il était plongé dans sa prédilection paternelle. Il s'agissait moins d'amour, qualité active, que d'une apathie torpide de ses autres facultés. Et le pardon, pour employer aussi mal ce terme noble, s'échappait de lui par pure faiblesse, comme des larmes séniles. Le cas de Madame Henry était très différent, et Dieu sait ce qu'il trouva à lui dire, ou comment il parvint à esquiver son mépris. C'est l'un des pires privilèges du sentiment que le ton de voix prenne plus d'importance que les mots, et celui qui parle plus que ce qu'il dit. Mais le maître dut trouver une excuse, ou peut-être même il découvrit le moyen de tourner ce scandale à son avantage, car après un temps de froideur, les relations se firent plus étroites que jamais entre lui et Madame Henry. Ils étaient perpétuellement ensemble. Je ne veux pas avoir l'air de jeter une ombre de blâme, en dehors de ce qui est dû à un aveuglement semi-volontaire, sur cette malheureuse lady. Mais je crois que durant ces derniers jours, elle joua de très près avec le feu. Et que je me trompe ou non là-dessus, une chose du moins est claire et suffisante. Mr. Henry le croyait. Ce pauvre gentilhomme restait assis des journées entières dans ma chambre, avec un air si malheureux que je n'osais m'aventurer à lui parler. Cependant, il faut croire qu'il trouvait quelque réconfort dans ma simple présence et dans la conscience de ma sympathie. À d'autres fois, nous causions, et c'était une singulière causerie. Personne n'était nommé, l'on ne citait aucun détail personnel, mais nous avions tous le même sujet dans l'esprit, et nous le savions l'un et l'autre. C'est là un curieux exercice auquel on peut se livrer. Parler d'une chose pendant des heures, sans la désigner, ni même y faire allusion. Et je me demandais si ce n'était pas à l'aide d'un artifice analogue que le maître courtisait Madame Henry tout le long du jour, comme il était manifeste, sans jamais alarmer sa pudeur. Pour montrer à quel point en étaient venues les choses, je rapporterai quelques mots de Mr. Henry, prononcés, j'ai des raisons pour ne pas l'oublier, le 26 février 1757. C'était par un temps hors de saison, un retour à l'hiver. Pas de vent, un froid glacial, un monde tout blanc de givre, un ciel bas et gris, une mer noire et silencieuse comme l'ouverture d'un puits de mine. Mr. Henry était assis devant le feu et se demandait, ce qui était devenu fréquent chez lui, si un homme doit agir, si une intervention serait opportune, et autres propositions générales dont chacun de nous faisait l'application. J'étais à la fenêtre, regardant au dehors, quand passèrent au-dessous de moi le maître, Madame Henry et Miss Catherine, ce trio devenu sempiternel. L'enfant courait çà et là, enchanté de la gelée, le maître parlait à l'oreille de Madame avec une grâce qui semblait, même de si loin, insinuante et diabolique, et elle, de son côté, regardait à terre comme absorbé dans son attention. Je sortis de ma réserve. « Si j'étais de vous, Mr. Henry, dis-je, je m'ouvrirais franchement à Mylord. »« Mackellar, Mackellar, dit-il, vous ne voyez pas la fausseté de ma situation. Je ne puis révéler d'aussi basses pensées à personne, à mon père encore moins. Ce serait me vouer à son plus profond mépris. La fausseté de ma situation, reprit-il, elle est en moi. Ma personne n'attire pas la sympathie. Je possède leur reconnaissance, chacun me dit cela, et je n'en suis pas plus riche. Mais je ne figure pas dans leurs esprits. Ils ne sont tentés ni de penser comme moi, ni de penser à moi. C'est là ce qui me perd. Il se mit debout et donna un coup de pied sur une bûche. « Mais il faut trouver un moyen, Mackella, » dit-il, me regardant tout à coup par-dessus son épaule. « Nous devons trouver un moyen. J'ai beaucoup de patience, beaucoup trop. Je me méprise à la fin. » Et cependant, il est sûr que personne jamais ne fut enveloppé dans une pareille trame. Et il retomba dans sa méditation. « Courage, lui dis-je, elle se rompra d'elle-même. J'ai depuis longtemps dépassé la colère à cette heure, dit-il. Et sa réponse avait si peu de rapport avec ma remarque que je n'insistai pas.